Ecclésiaste 11. Ecclésiaste, chapitre 11, il est écrit ceci. Jette ton pain sur la face des eaux, car avec le temps, tu le retrouveras. Donne-en une part à 7 et même à 8, car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. Quand les nuages sont pleins de pluie, ils la répandent sur la terre. Et si un arbre tombe au midi ou au nord, il reste à la place où il est tombé. Celui qui observe le vent ne sèmera point, et celui qui regarde les nuages ne moissonnera point. Comme tu ne sais pas quel est le chemin du vent, ni comment se forment les eaux dans le ventre de la femme enceinte, tu ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu qui fait tout. Dès le matin, sème ta semence, et le soir, ne laisse pas reposer ta main, car tu ne sais point ce qui réussira. Ceci ou cela, ou si l'un et l'autre sont également bons. Voilà un passage qui ne parle pas comme ça directement de la prière, mais qui fait référence à la prière. On dit « Jette ton pain sous la face des eaux, car avec le temps tu le retrouveras. » Et cette phrase nous dit qu'on peut jeter le pain sur la surface des eaux. Or le pain, nous savons que sa matière fait que quand on la jette, on jette le pain dans l'eau, eh bien, ça s'abîme. Mais ce verset dit que tu le retrouveras. En fait, ça fait référence à tout ce qu'on peut faire pour Dieu, notamment la prière, qui peut paraître n'avoir aucun effet. Parce que quand tu jettes le pain sur la surface des eaux, mais c'est perdu. Mais ici, on nous dit, car avec le temps, tu le retrouveras. Mais ça montre que ce que nous, on peut considérer comme étant perdu, mais la Bible nous montre, nous dit qu'on retrouvera ça. Toutes ces prières qu'on fait, qu'on parle, et parfois on peut demander la conversion de Sarkozy, de Macron, on se dit, mais c'est trop grand. Mais la Bible nous dit que c'est comme un pain que tu as jeté, mais que tu retrouveras. Donc c'est pour nous encourager à jeter le pain. Parce qu'on peut se dire, mais à quoi ça sert? Puisque si je jette, ça sera perdu. Mais pourquoi prier si, bon, l'effet ne sera pas... On ne sent pas que l'effet sera là. Et donc vraiment, c'est un encouragement à prier. Donc Ecclésiaste 11, qu'on pourra relire vraiment, est puissant dans ce sens-là. Il dit, donne-en une part à 7, même à 8. Car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. Il dit, mais donne le pain à des gens. Et tu ne sais pas quel effet ça peut produire ce que tu fais là. Donc c'est vraiment un encouragement à prier. Parce que le diable et notre chair vont toujours nous embêter pour nous dire, ah, vous êtes à deux, vous allez prier, vous croyez que votre prière là pour toute la France, ça va marcher. Mais là on dit, jette ton pain. Avec le temps tu retrouveras. Et il dit, quand les nuages sont pleins de pluie, ils répandent sur la terre. Ils la répandent sur la terre. Quelque part, on nous dit qu'à un moment donné, ces prières-là vont être comme un nuage rempli. Et quand un nuage est rempli, il n'a pas le choix que de se transformer en pluie. C'est ce que Salomon veut dire. Donc quand on va faire ces prières-là, ça donne l'impression que ça n'a aucun effet. Mais Dieu nous dit là que non, ça va s'amasser en nuage. Et qu'on le veuille ou pas, à un moment donné, ça va pleuvoir. Que l'on veuille ou pas. Donc c'est une exhortation, toujours à prier. Et il donne plusieurs images. Il commence par le pain. Maintenant, c'est l'image du nuage qui, en grossissant, c'est sa grosseur qui fait que finalement, le poids est tellement lourd que ça se transforme en pluie. Et donc nos prières, même si chacune des prières paraît inutile, puisque parfois on a l'impression que ce qu'on demande est trop grand, ou bien on a l'impression que nous-mêmes on n'est pas qualifié. Or Dieu ne m'a jamais dit ça. Il a dit demander. Ce n'est pas une belle prière qui compte, mais c'est ce qui vient du cœur qui compte. ce n'est pas une façon de parler qui compte, mais c'est une demande avec foi qui compte. Et avec sérieux, conscient que Dieu va faire. C'est ça qui compte. Il dit, mais tout ça, c'est comme un nuage qui gonfle, et ça finit. On finit par voir le résultat par la pluie. Il dit, et si un arbre tombe au midi ou au nord, il reste à la place où il est tombé. Alors c'est rigolo. Donc ça veut dire qu'un arbre qui tombe ne se déplacera pas. Donc il veut dire par là que si tu ne fais rien, il n'y aura rien non plus. Donc un arbre tombe, il reste au même endroit là. Ça ne sert à rien de rester là, dire bon, hier j'ai prié, je n'ai rien vu. Ah, je ne vois pas pourquoi aujourd'hui je vais prier, ça va changer quelque chose. Donc c'est pareil à cet arbre-là. Au fait, tu tombes, mais tu restes là, l'arbre tombe, tu ne fais rien, ça reste là. Jamais l'arbre qui tombe va se déplacer après pour aller quelque part, il reste là. Donc le chrétien qui se dit, je ne fais rien, puisque j'ai l'impression qu'il n'y a pas de résultat. Je ne fais rien parce que les gens sont mauvais. Je ne fais rien parce que la tâche paraît trop immense. Je ne fais rien parce que je n'ai pas de moyens. Eh bien, tu resteras là, à cette place-là. Rien ne bougera. Je ne fais rien parce que je n'ai pas le temps de prier. Mais tu resteras là. C'est une exhortation vraiment à faire quelque chose. Donc Salomon veut nous dire, il faut faire quelque chose. Pour faire quelque chose, il ne faut jamais rien faire. Parce que si tu ne fais rien, tu n'as rien non plus, ça reste. Et ça rejoint ce qu'on est en train de lire, ce qui est écrit dans Galates 6, 7. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Donc si tu n'as rien semé, il n'y a rien aussi. Autant semer, et on va voir que vraiment le Nouveau Testament et l'Ancien Testament vont toujours ensemble, puisque les autres versets qu'on va lire vont nous montrer cela. Celui qui observe le vent ne sèmera point. Donc tu es inquiet par rapport au vent, eh bien, tu ne feras rien. Tu es inquiet par rapport aux difficultés, aux persécutions, aux oppositions, aux tribulations, eh bien, tu ne feras rien. Parce que ça t'empêche de bouger, ça ne sert à rien. Il faut qu'on continue à prier, il faut qu'on continue à faire quelque chose. Ne regardons pas aux oppositions, aux difficultés ou au fait que les choses paraissent stériles. Il dit, et celui qui regarde le nuage ne sonnera point, parce qu'il craint que ça pleuve, il craint que les conditions ne soient pas favorables et il ne fera rien du tout. Donc Salomon nous exhorte à faire ce qu'on a à faire. Comme tu ne sais pas quel est le chemin du vent, ni comment se forment les eaux dans le ventre de la femme enceinte, c'est ça qui est beau. Tu ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu qui fait tout. Il veut dire que personne n'a le mécanisme de la prière et de son action. On ne sait pas. Personne ne peut nous dire que telle action, c'est parce qu'un tel, ont prié, j'ai tout compris. Non. Oui. On peut prier et voir que Dieu accomplit les choses. Mais on se souvient, Jésus avait dit à ses disciples, je vous ai envoyé moissonner là où vous n'avez pas semé. Donc, nous on peut penser que oui, c'est ma prière qui a produit ça, mais peut-être c'est la prière de quelqu'un qui a prié il y a 20 ans. Donc, on ne sait pas. On sait certaines choses. C'est ça, comme le vent, c'est ce qu'il dit. Tu peux savoir certaines choses sur le vent, mais tu ne sais pas tout. On sait certaines choses sur la grossesse. Mais on ne sait pas tout. Donc c'est ce qu'il dit, tu ne connais pas ce mécanisme, donc tu ne connais pas non plus la façon de faire de Dieu. Tu ne sais pas pourquoi tel. Quand je dis tu ne connais pas, c'est-à-dire à 100%, tu ne sais pas comment ça se passe. Toi, tu sais seulement que tu as prié et les choses se sont faites. Mais tu ne sais pas comment à partir de la prière, il y a eu un enchaînement. Tu ne connais pas cet enchaînement-là. Toi, tu vois seulement le résultat, comme beaucoup de conducteurs de véhicules. Ils voient qu'ils appuient sur l'accélérateur, le véhicule avance. Mais ceux qui sont capables d'expliquer tout ça sont très peu nombreux parmi les conducteurs. Comment, dès que j'appuie, qu'est-ce que ça actionne là-bas? Et puis, ainsi de suite, parce qu'il y a plusieurs systèmes qui amènent après que tu te déplaces avec le véhicule. Mais toi, tu sais seulement que j'appuie et ça avance. C'est ce que nous savons. Je prie et Dieu agit, mais je ne sais pas. Finalement, quels sont les systèmes qui sont mis en place? Alors Salomon dit, mais puisque tu ne sais pas tout ça, donc tu ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu qui fait tout, alors dès le matin, verset 6, sème ta semence et le soir ne laisse pas reposer ta main, car tu ne sais point ce qui réussira, ceci ou cela, ou si l'un et l'autre sont également bons. Il dit, mais puisqu'on ne connaît pas tout ça, pourquoi alors se limiter en disant, bon, je ne prie pas parce que c'est comme si tu maîtrisais. Non. Il dit, sème quand tu peux. Le matin, tu sèmes. Le soir, tu sèmes. Parce que tu ne sais pas quelle va être la prière qui va enclencher rapidement l'action de Dieu. Tu ne sais pas. Alors, quand tu ne sais pas, autant s'aimer. Autant taper comme le ventilateur. Tu tournes, tu touches tout l'espace. Eh bien, puisque tu ne sais pas qu'est-ce qui va déclencher l'action divine, autant s'aimer à tout moment. Et c'est ce qui est écrit. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le mentionnera. Donc c'est un appel à ne pas nous arrêter. Le sujet qu'on a l'habitude de donner au Seigneur, de faire part au Seigneur, tant qu'on n'est pas en paix par rapport à l'exaucement, on peut continuer à les donner. C'est comme, ça ressemble à quelqu'un qui a commencé un chantier, un architecte, ça commence, mais il vient faire des visites parce que c'est pas lui qui va, il y a d'autres responsables qui construisent réellement la chose. Mais lui, il vient faire régulièrement des visites pour voir si ça correspond au plan. C'est ça nos prières répétitives. Quand on répète le même sujet, c'est une façon de vérifier qu'on est toujours dans le coup, quoi. On est toujours attaché au sujet du début. C'est pas mauvais. Jusqu'au jour où Dieu nous donne la paix, que nous sommes exaucés, là on peut arrêter et changer de sujet. Mais tant qu'on n'a pas cette paix-là, on a toujours cette soif de voir la chose, on peut toujours prier. C'est ce que le Seigneur nous exhorte aussi dans Luc 18, comme par rapport à la parabole de la veuve. Donc nous ne devons pas nous relâcher parce que nous ne voyons rien, parce que il y a le vent, il y a la persécution, la difficulté, parce qu'il y a eu un échec. Nous devons pas. Exode 11 nous montre que nous ne connaissons pas le mécanisme de Dieu à 100%. Comme on ne connaît pas, faisons notre part. Prions, c'est tout. Faisons notre part. Parlons de Dieu, c'est tout. Faisons notre part. Puisque le reste, on ne connaît pas. On ne sait pas qu'est-ce qui va faire le déclic pour la conversion de la personne pour qui on prie. Mais prions. On ne va pas se dire, ah, on a prié pendant 10 ans, mais on arrête. Non, on ne connaît pas le mécanisme. Donc ne prenons pas des décisions comme si on connaissait le mécanisme de Dieu. Nous obéissons. Semons dès qu'on peut. C'est très important. Et quand le Seigneur va commencer à agir, on ne sera pas sûr à 100% que c'est à cause de nous. Et ça nous gardera dans l'humilité. Mais si c'était du genre, on appuie sur le bouton de la télé, ça s'allume. Quand le Seigneur allait agir, on allait dire c'est grâce à moi, c'est parce que j'ai prié, c'est parce que ceci, c'est parce que cela. Mais Salomon nous dit, nous ne connaissons pas tous les mécanismes. Alors faisons vraiment notre part avec persévérance, parce qu'au moins quelque chose qu'on connaît du mécanisme, c'est que ça marche toujours. Voilà ce qui il nous rassure. Jette ton pain sur la surface des eaux, tu le retrouves. Même si ta prière paraît zéro, mais tant que c'est pas avec foi, tant que tu es sérieux dans ta prière, tant que c'est à Dieu que tu parles, mais tu ne fais pas une sorte de monologue religieux, tu parles vraiment à Dieu. C'est ça qui compte. C'est très important. Je vous ai souvent raconté l'histoire de cette dame qui n'avait plus rien à manger vers le 18e siècle. Et elle s'est dit, je vais prier, il ne me reste plus qu'à prier. Parce qu'il y a des gens aussi qui peuvent se dire, je vais voler. Hein. Je vais aller au marché voler. Elle dit, mais non, je peux prier. Souvent, on n'a pas prié, alors que prier, c'est juste parler. Et on a préféré faire d'autres efforts plus grands que le fait de parler. C'est rigolo comment le diable peut nous avoir. Ce qui est plus simple, c'est de parler, parce qu'on ne veut pas, mais on préfère faire un effort, voler, faire quelque chose de plus difficile. Tout simplement parce que qu'on se le dise, on est parfois un peu en colère contre Dieu, ce n'est pas clair, mais c'est une forme de mécontentement où on aurait aimé au fait que Dieu fonctionne comme on a, comme à l'école, comme les sciences mathématiques. Et comme il ne fait pas ça, C'est pourquoi on ne prie pas. Parfois, il y a une sorte de mécontentement diffus en nous qui fait qu'on préfère agir humainement plutôt que prier. Alors cette dame s'est dit, ben, je vais prier. Et comme à l'époque, ils ne faisaient pas de prières comme nous, vu la culture catholique, même si les gens après étaient devenus protestants, ben, ils restaient quand même avec ce reste-là, de ne pas parler à Dieu directement comme ça. Elle a écrit sa prière sur le papier. Dieu, je manque de nourriture, donne-moi la nourriture. Et elle prend cette prière, elle va au marché avec. C'est ça le sérieux que Dieu attend de nous. Tu fais une prière, mais tu vérifies. Est-ce que Dieu a exaucé? Est-ce que Dieu n'a pas exaucé? S'il n'a pas exaucé, mais moi je veux voir la chose, je prie encore. J'ai prié, eh bien je prends la direction de ma prière. Donc elle a pris la direction. Elle a amené ce papier au marché. Elle arrive devant le marchand des légumes. Elle donne le papier. Le marchand des légumes lit. Mais il dit, mais c'est une prière. La dame dit, oui, j'ai besoin de la nourriture. Il dit, mais... Le monsieur dit, mais quel est le poids d'une prière? On va voir. Et en rigolant, il dit, on va voir si c'est, la prière a du poids. Donc, il met le papier sur un plateau. Il dit, je vais commencer à mettre la nourriture sur un autre plateau. On va voir si cette prière pourra maintenir cette nourriture-là. Si ça maintient, tu prends la nourriture. Ben, il a mis des choses. Le papier gagnait toujours sur la chose. Il a rajouté le papier gagnait toujours. Il a rajouté au point qu'il n'y avait plus de place dans le panier. Donc de l'autre côté sur le plateau, le papier était toujours triomphant. Il a dit, madame, vous avez gagné tout ça. Donc, la dame est repartie avec tout ça parce qu'elle a cru en la prière. Mais le monsieur avait dit, mais un papier, une prière. Quel est le poids d'une prière? Mais le poids immense. Un poids même, je dirais, éternel. Mais ne nous décourageons pas. Semons toujours. On ne perd rien. On ne nous demande pas de monter sur un cocotier. Juste parler à Dieu avec foi. Avec sérieux, épancher son cœur, c'est tout. C'est vrai que ça nous demande un effort d'humilité, parce qu'on se dit, hier j'ai prié, avant-hier il y a 10 jours, et puis on se dit, mais Dieu voit les gens souffrir, c'est maintenant nous qui devons prier, lui-même ne peut pas agir. Il y a trop de raisonnements en nous qui sont diffus, qui nous empêchent de prier. Soyons vainqueurs de ces raisonnements-là, soyons vainqueurs de ces états-là, et prions. Quand on nous amène une mauvaise nouvelle, quand on nous amène une affaire, commençons toujours par la prière et non pas par des actions humaines. Toujours la prière, c'est comme ça. Jette ton pain, tu le retrouveras. Voilà, c'est cela. Que le Seigneur nous aide au nom de Jésus. Amen. Seigneur, nous venons prier. Que tu nous aides à ne pas négliger la prière, à ne pas chercher des prières compliquées où l'homme est élevé, où l'homme semble fort. Mais des prières simples où l'homme est petit, où toi tu es grand. Comme un enfant qui vient demander à son père, tout simplement. On se souvient de l'enfant, du fils aîné de Luc 15. Son père lui a dit, mais mon fils, toi tu es avec moi ici. Ce qui est à moi est à toi. Mais si tu voulais faire une fête, pourquoi tu n'avais pas demandé? Seigneur, ce fils-là était dans l'orgueil de demander. Il se disait, son père voyait, son père n'avait qu'à faire. Mais comment son père allait savoir que lui, il voulait faire une fête? Seigneur, parfois nous avons des attitudes de mécontentement vis-à-vis de toi. Des attitudes de petite rébellion parce qu'on a prié, on n'a rien vu ou bien. On pense que toi-même, tu dois agir comme ça. Pourquoi il faut encore que nous, on fasse ceci, cela? Seigneur, purifie-nous de tous ces mécontentements, purifie-nous de tous ces malaises, ces mal-êtres, que nous soyons simples, que nous comprenions que tu as un mécanisme, tu as des mécanismes que nous ne saisissons pas. Nous saisissons peut-être le début et la fin, parce qu'on a prié, on a vu après à la fin, mais le milieu, on ne saisit pas, Seigneur. Alors, comme notre frère Salomon nous dit, on ne sait pas si c'est la prière du matin, ou la prière du midi, ou la prière du soir qui va faire les choses. C'est pourquoi on doit prier à tout moment, Seigneur, au nom de Jésus, mais avec foi, avec sérieux. À toi la gloire, la louange, Seigneur, pour tout ce temps que nous passons dans ta présence, Seigneur. Que cette journée soit la journée que tu as faite, qu'elle soit pour nous un grand sujet de joie. Béni soit ton nom, au nom de Jésus. Amen.
Amen. Okay.